France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Comment stopper les agressions au couteau à l'école? Question posée après le drame de Nogent hier. Ce sont bien les gendarmes qui menaient la fouille au collège à ce moment-là. Nous serons sur place, mais ça n'est pas toujours le cas. Explication à suivre. Nous verrons aussi quelles solutions ont apporté les Britanniques, très concernés par les violences avec couteau à l'école. Et nous serons en Autriche, journée de deuil national après la fusillade d'hier, dans un lycée. À suivre encore la mobilisation des taxis. Bonjour Sophia Berada.
Bonjour.
Qui ne baisse pas les bras.
Non, les représentants des fédérations ont rencontré le ministre de la Santé ce matin. Ils ont le sentiment d'avoir été écoutés.
A tout de suite pour votre reportage. L'interview posthume de Nicole Croisille, la chanteuse, confie avoir programmé son départ. La chaleur, 35 degrés dépassée cet après-midi, notamment en Dordogne.
C'est vrai que ça tape, là. L'eau, elle est juste parfaite. Ça fait plaisir d'être tranquille tout seul. L'ambiance sonore, on fait les cons, on n'est pas jugé, tout ça. Donc c'est drôle, ouais, c'est sympa.
Et on n'oublie pas son maillot, prévision complète dans une demi-heure. À partir de 13h30, savez-vous que l'intelligence artificielle est là quand vous faites vos courses? L'IA et la grande distribution, sujet tabou dans les rayons. On en parle ensemble, 01 45 24 7000 pour vos questions ou témoignages si vous travaillez dans ce secteur. 13h50, c'est la France. Où est-on chez soi? C'est la question que nous pose Eric Fotorino du 1 Hebdo. On va parler de nos racines. Juste avant 14h, ça n'est pas fait exprès. Lui aussi a chanté les racines. Maxime Le Forestier dans C'est une chanson, demandée par la chanteuse Bevinda. Et puis, on a un peu de cinéma à vous proposer en ce mercredi. Les sorties du jour avec Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Tous les élèves, enseignants et personnels de l'éducation nationale feront silence demain à midi partout en France. Une minute pour honorer la mémoire de Mélanie, 31 ans, tuée par un collégien hier devant son établissement de Nogent en Haute-Marne. Mais les pensées iront aussi demain vers Lorraine, la lycéenne de Nantes, poignardée à mort par l'un de ses camarades fin avril, ou encore vers Agnès Lassalle, cette professeure basque dont le collégien meurtrier présumé sera jugé dans les prochains mois. Alors nous verrons dans un instant que le débat autour de cette violence se cristallise autour de la circulation des couteaux et de l'influence des réseaux sociaux. Mais avant cela, allons à Nogent retrouver William Delesseux. Bonjour William.
Bonjour Jérôme.
Vous avez des informations à nous apporter sur le déroulé des faits au moment de la fouille des sacs hier matin.
Effectivement, un peu plus de 24 heures ont passé depuis le drame et les témoignages des élèves présents permettent de mieux comprendre le déroulement des faits. Mélanie, la surveillante de 31 ans, était ce matin-là au premier portail du collège utilisé pour l'entrée le matin. Elle oriente les élèves vers l'intérieur où les gendarmes sont installés ce matin-là derrière des tables pour procéder à des contrôles des sacs. Augustin est en quatrième, il a vu et vécu la scène, une attaque au couteau d'une grande violence.
Bah, on entre, le policier nous dit d'aller à gauche pour la fouille des sacs. Et là, d'un coup, on entend Mélanie crier « À l'aide, à l'aide, je vais mourir !» Mélanie était peut-être un mètre ou deux derrière moi. Et quand j'ai entendu le cri, j'ai juste eu me retourner. Mélanie, elle est tombée sur nous, quoi.
Qui fouillait les sacs à ce moment-là?
Les gendarmes.
Comment tu te sens aujourd'hui?
Bah, peur de retourner au collège parce que on se dit qu'on n'est pas forcément en sécurité quand même.
Les gendarmes ont porté secours à la victime et maîtrisé l'agresseur, l'adolescent de 14 ans, l'agresseur présumé. Tous ces témoignages ont été recueillis par les enquêteurs. Le procureur de Chaumont donnera une conférence de presse en fin de journée.
Et depuis ce matin, William, les élèves peuvent être accueillis au sein d'une cellule psychologique dans l'établissement. Ils sont nombreux.
Il y a les élèves, leurs parents, mais aussi la famille de Mélanie, très affectée. Des cris et des pleurs que vous entendez ce matin aux abords de toutes ces fleurs déposées devant la grille de l'établissement. Tous viennent consulter la cellule psychologique et les professionnels présents. Clara, scolarisée ici, et sa mère Aurélia viennent d'en sortir.
Très bien, ils ont posé des questions, savoir ce qu'elle avait vu, comment elle était et tout. Et voilà quoi. Et elle était présente au moment de l'acte de l'enfant, donc il fallait qu'elle en parle.
Ça va un peu mieux que hier. Bah, j'étais au collège et j'ai vu l'agression.
La difficulté de trouver les mots ce midi. Des habitants continuent de venir témoigner leur soutien aux proches de Mélanie, comme Jérôme.
Je suis venu déposer un petit ange à Mélanie pour lui rendre hommage. Et puis quatre petites roses de chaque côté et puis l'ange au milieu. C'est un drame, c'est un drame. Voilà, c'est tout.
La cellule psychologique pour celles et ceux qui le souhaitent restera en place demain dans l'établissement alors que les cours reprendront.
Merci William Delesseux en direct de Nogent en Haute-Marne avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Vous nous avez décrit, William, comment s'est déroulée hier la fouille à l'entrée de ce collège. Ces fouilles à l'entrée des écoles ont permis en France de saisir au moins 186 couteaux en 2 mois. Et cela n'étonne pas les élèves de ce collège de Poitiers. Apolline Carré-Guilhem leur a posé une question simple. En avez-vous déjà vu ?
J'en connais même qu'elle avait ramené genre des tournevis, des couteaux et tout. Personnellement, moi, je le ferais pas, mais je pense que je pourrais le cacher, oui.
Moi, j'en connais en fait des gens qui ont des couteaux dans leur sac, mais ils le disent pas. Du coup, je sais pas, ça me fait peur des fois, mais après, je me dis que peut-être que bah, ils sont gentils, quoi. Ils s'attaquent juste à ceux qui sont méchants avec eux.
Enfin, ça fait un peu peur parce que, genre, des fois, les embrouilles, ça va vite, ça part de rien. Et après, bah, direct, ils vont se battre et tout ça. Du coup, bah, c'est un peu dangereux.
Quand tu vas à l'école, tu t'inquiètes ? Des fois, non, j'essaye de pas y penser, mais des fois, ça reste dans la tête. C'est que j'ai peur de moi aussi être touchée. C'est que ça peut vraiment nous arriver par n'importe qui, même par une personne qu'on connaît bien, bah, ça peut clairement nous arriver.
Propos recueillis par Ici Poitou. La vente de ces couteaux aux mineurs va être interdite, a annoncé hier soir le Premier ministre François Bayrou. L'arrêté sera pris dans les 15 jours. Quant aux opérations de fouilles, bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Vont-elles se poursuivre ? On sait que les représentants des personnels de l'éducation nationale les dénoncent.
Oui, le ministère de l'éducation nationale est formel. Les fouilles vont se poursuivre dans toutes les académies. Le cabinet de la ministre ajoute que le drame montre qu'il est plus que jamais nécessaire de continuer. Ce sont les préfets qui programment ces contrôles en lien avec les rectorats et les chefs d'établissement sont prévenus.
Alors à Nogent, ce sont les gendarmes qui fouillaient, on l'a entendu. Mais est-ce que les personnels de l'éducation sont eux aussi amenés à réaliser ces fouilles ? Ce matin, la ministre Elisabeth Borne a dit qu'ils n'étaient pas exposés.
Oui, officiellement, c'est la règle. Le ministère confirme que les fouilles de sacs doivent se dérouler à l'extérieur de l'établissement, qu'elles sont menées par les forces de l'ordre, qui ne rentrent pas dans le collège ou le lycée. Mais sur le terrain, la réalité est parfois différente et ces consignes ne sont pas toujours appliquées en raison de la configuration des lieux, de la voirie. Des proviseurs m'ont expliqué que ces contrôles risquaient par exemple de provoquer des accidents dans la rue si les élèves étaient massés devant leur établissement. Dans ce cas, ils les font rentrer et procèdent eux-mêmes au contrôle des sacs en présence des forces de l'ordre. Certains chefs d'établissement m'ont aussi confié qu'ils préféraient des opérations moins spectaculaires, moins anxiogènes pour les élèves. Ils demandent alors à la police ou à la gendarmerie d'être plus discrètes et assurent eux-mêmes les contrôles avec le personnel d'éducation.
Merci Sonia Princé. Alors comment expliquer le passage à l'acte de ce jeune collégien de Nogent ? Pour l'instant, pas d'éléments. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures et le procureur de Chaumont donnera effectivement une conférence de presse en fin d'après-midi. Hier soir, en tout cas, le président de la République lui a fait un lien avec l'utilisation abusive par de nombreux jeunes des réseaux sociaux. On doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, a dit Emmanuel Macron. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Qu'en disent les médecins, les spécialistes ? Est-ce qu'il y a un lien ?
Il n'y a pas de recherche qui prouve un rapport direct entre les réseaux sociaux et la violence. C'est un raccourci, estime Yann Leroux, psychologue spécialiste notamment de la question des réseaux sociaux.
Ils ne sont pas la cause des comportements violents. Pour le dire platement, si quelqu'un a un comportement violent, c'est pas parce qu'il a vu une vidéo violente sur TikTok, c'est parce qu'il est motivé à avoir ce comportement. Les motivations, les motivateurs de nos comportements, ils sont toujours ailleurs dans nos médias.
Il y a par exemple le contexte social, la personnalité, la santé mentale. Alors oui, TikTok, Instagram, Snapchat peuvent amplifier cette violence, être une caisse de résonance. On se rappelle des émeutes après la mort de Naël, tué par un policier. Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux ont des algorithmes addictifs qui enferment ses utilisateurs dans une bulle, avec par exemple des vidéos violentes. Justine Atlan est la directrice générale de l'association e-enfance.
C'est un peu un symptôme aussi, c'est-à-dire que ça révèle éventuellement un adolescent déjà en situation de mal-être. Et malheureusement, ça peut être un cercle vicieux qui, plutôt que de l'aider, va plutôt renforcer déjà son mal-être et des comportements négatifs. Mais encore une fois, c'est quand même l'être humain qui préexiste avant l'usage d'une technologie ou d'un outil, quel qu'il soit.
Justine Atlan qui émet des réserves concernant l'annonce du président Macron, car il n'y a pour l'instant pas de solution efficace mise en place pour vérifier l'âge des utilisateurs.
Victor Vasseur, cette question des homicides ou tentatives d'homicide chez les ados se pose en fait dans plusieurs pays d'Europe. Nous serons en Autriche dans une minute. D'abord, arrêtons-nous au Royaume-Uni. Le pays a connu il y a quelques mois une très forte hausse du nombre d'attaques au couteau, et notamment chez les jeunes. Bonjour Laura Calmus.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Est-ce que le lien est fait chez vous avec la santé mentale des jeunes ?
Pas tout à fait, mais c'est vrai que c'est un véritable fléau. L'an dernier, 50 000 agressions au couteau ont été recensées en Angleterre et au Pays de Galles. Cela fait 140 attaques par jour avec près de 250 morts. Et parmi les victimes, Kylian Bokassa, 14 ans, poignardé en plein jour dans un bus. Selon sa mère, il était sous l'emprise d'un gang. Mais au-delà des gangs, porter un couteau est devenu un réflexe de défense, une manière de ne pas paraître vulnérable. Alors face à cette urgence, le gouvernement britannique a interdit les couteaux zombies, ces armes à double tranchant et lame incurvée. Et dès le 1er août, la vente de couteaux en ligne sera également interdite. La loi portera le nom de Ronan Kanda, 16 ans, tué par un camarade de son âge, armé d'un sabre acheté sur Internet avec la pièce d'identité de sa mère. Comme en France, Downing Street a aussi annoncé la diffusion de la série Adolescence dans les collèges et lycées pour susciter le débat et prévenir cette violence. Objectif affiché, diviser par deux les attaques au couteau d'ici 10 ans.
Laura Kalmus en direct de Londres. En Autriche, pays jusque-là préservé de ces violences, c'est une journée de deuil national au lendemain de la tuerie qui a touché un lycée de la ville de Graz. Une minute de silence a été observée ce matin à 10h. C'est un ancien élève de cet établissement qui a tué 10 personnes hier avant de se donner la mort. Et parmi les victimes figure un jeune Français de 17 ans. Il était élève de cet établissement. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous êtes à Graz pour Inter. Simon, les Autrichiens continuent de se recueillir devant l'école.
Une bâche a été tendue devant le portail pour préserver les élèves, les parents, les professeurs du regard des caméras installées sur le trottoir d'en face. On distingue des fleurs, des bougies, des sanglots étouffés s'en échappent. En repartant les yeux rougis vers la salle de spectacle où ils sont pris en charge juste à côté, tous refusent de parler. Le porte-parole de la Croix-Rouge, Nicolas Lezeris, traverse la rue pour demander aux journalistes de respecter leur intimité.
Je sais que certains aimeraient voir ce qui se passe derrière moi. C'est une image de souffrance, une image qu'il ne faut pas montrer à tout le monde. C'est le genre de situation auquel les services d'urgence se préparent en pensant que ça n'arrivera pas vraiment. L'inimaginable a eu lieu à Graz.
Les victimes avaient pour beaucoup 15, 16, 17 ans, parmi lesquels ce jeune Français dont les parents sont installés ici depuis de longues années. Sur le grillage, une grande banderole, Graz est solidaire.
Les enquêteurs recherchent dans le passé de l'auteur des faits, des motivations. Est-ce qu'on en sait plus ?
Notamment, oui, dans cette lettre que le tueur a adressée à ses parents, mais qui ne permet pas, selon la police, pour le moment d'en savoir plus. Les enquêteurs ont aussi retrouvé, lors de cette perquisition, une bombe artisanale non fonctionnelle. Certains médias, ici en Autriche, affirment que ce jeune homme, âgé de 21 ans, avait été harcelé lorsqu'il était scolarisé dans cet établissement. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il y est resté de 14 à 18 ans et qu'il n'avait pas terminé son cursus, qu'il n'avait jamais obtenu son diplôme.
Simon Le Baron à Graz pour Inter. Un voyage sous très haute surveillance ce matin pour le narcotrafiquant Mohamed Amra, extrait de sa cellule de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne au petit matin par hélicoptère. Direction le tribunal de Paris où il se trouve toujours. Il y est interrogé pour la première fois depuis son évasion meurtrière en mai 2024. À Laon, dans l'Aisne, les pompiers sont toujours sur place en ville haute et une partie de la circulation bouclée. Deux jours après l'incendie qui a coûté la vie à deux pompiers volontaires de 22 et 23 ans, Tanguy Mauzin et Maxime Prudhomme, retrouvés morts hier dans les décombres. Que se passe-t-il en Irlande du Nord ? Cela fait deux nuits maintenant que nous parviennent des images de violence de la province britannique. Des émeutiers s'en prennent aux immigrés, habitations et commerces attaqués, des heurts avec les forces de l'ordre. Bonjour Sébastien Logeni.
Bonjour.
C'est la mise en cause de deux adolescents d'origine roumaine dans une tentative de viol qui a mis le feu aux poudres.
Oui, deux jeunes de 14 ans accusés de tentative de viol le week-end dernier sur une jeune fille. Les émeutes ont commencé il y a deux jours contre la communauté roumaine de la ville de Ballymena, une ville de 30 000 habitants à une quarantaine de kilomètres au nord de Belfast, la capitale d'Irlande du Nord. Et sur les réseaux sociaux, des cocktails Molotov contre des voitures de police prises pour cible par de petits groupes de manifestants cagoulés, des barricades en feu, 6 personnes ont été arrêtées, plus d'une quinzaine de policiers blessés. La police qui tente d'empêcher, par exemple, ces groupes violents de s'en prendre aux maisons des familles roumaines. Voilà, ce qu'on entend là, ce sont des manifestants qui viennent de mettre le feu à des habitations dans un des quartiers de Ballymena où vit une importante communauté immigrée. Des violences condamnées par ce responsable de la police, Ryan Anderson. Cette violence était clairement motivée par des considérations raciales, dit-il, et visait une minorité ethnique ainsi que la police. Ce responsable qui s'inquiète aussi de la montée des attaques haineuses à caractère raciste en Irlande du Nord. L'été dernier déjà, la région avait déjà été secouée par des émeutes anti-immigration à la suite des meurtres de trois fillettes dans une attaque au couteau en Angleterre.
Sébastien Legénie pour ses précisions.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Taxi 2, le retour après une pause de 10 jours. Les taxis sont donc à nouveau mobilisés contre la convention sur le transport des patients. Convention qui vise à faire des économies car ses dépenses ont explosé plus 45% en 5 ans. Sophia Béradan, on vous retrouve. Vous étiez ce matin au ministère de la Santé à Paris. C'était le lieu de rendez-vous.
Oui, en sortant de la réunion, les représentants des 5 fédérations de taxis avaient plutôt le sourire. Bilal Boimard, le représentant de la Fédération des taxis indépendants.
Si on peut résumer l'avancée d'aujourd'hui, c'est qu'on a eu beaucoup plus d'écoute. Jusqu'à présent, nos propositions n'étaient pas forcément retenues. Là, aujourd'hui, il y a un petit peu d'ouverture sur nos propositions et sur l'étude de ces propositions.
La principale de ces propositions, c'est d'abandonner la mesure phare de la réforme, c'est-à-dire payer la course 13 euros plus une indemnité pour chaque kilomètre parcouru. Les taxis, eux, souhaitent passer au taximètre, c'est-à-dire payer en fonction du temps de la course. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, ne ferme pas la porte et en ouvre d'autres.
L'accompagnement des enfants qui sont transportés. Il peut avoir aussi le forfait d'accompagnement quand un patient ne peut pas lui-même se diriger, s'orienter dans l'hôpital, faire ses papiers administratifs. Tout un tas de choses sans être trop techniques qui permettent peut-être au taxi de pouvoir avoir une certaine visibilité, une certaine stabilité, notamment pour les taxis qui ont des salariés.
L'assurance maladie a 2 semaines pour faire des simulations avec les idées des syndicats et une nouvelle réunion aura lieu dans 2 semaines donc. Mais le ministre prévient, les solutions retenues devront, quoi qu'il arrive, répondre à l'objectif imposé, faire 150 millions d'économies en 3 ans.
Sophia Berada, c'est l'un des plus grands salons au monde pour l'innovation technologique. VivaTech, porte de Versailles, à Paris, avec un premier événement ce matin, la conférence, la keynote, comme on dit, du patron de l'entreprise Nvidia. C'est un géant qui est en quasi monopole sur le marché des puces électroniques et des cartes graphiques, deux éléments essentiels pour faire tourner les intelligences artificielles. Bonjour Xavier Demagny.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes sur place, vous avez assisté ce matin à cette conférence de Jensen Huang. Il est considéré comme le nouveau Steve Jobs dans le milieu de la tech et la salle était pleine.
Oui, plus de 4500 personnes au Dôme de Paris, public très masculin, des développeurs, des dizaines de start-up pour cette toute première conférence de Jensen Huang en France. Elle a attiré les curieux comme Fabien et Linda.
C'est effectivement une espèce de star dans notre milieu et le style, le profil, mais aussi l'impact. Oui, c'est fascinant.
C'est vrai qu'aujourd'hui, Nvidia drive complètement le secteur de la technologie numérique. C'est un grand gourou qu'on vient entendre aujourd'hui.
Dans la salle, ambiance concert, t-shirt en cadeau souvenir sur les sièges. Et sur scène, c'est un petit monsieur, cheveux blancs et blouson de cuir, acclamé à chaque présentation de carte graphique.
Il en a profité pour faire des annonces, Xavier, ce matin.
Oui, alors vous savez, c'est très technique, hein, Jérôme. 1h40 à parler puces et capacités de calcul, il faut être calé. L'Europe s'est réveillée, dit-il, a pris conscience de l'importance de l'IA.
We have great partners in the UK.
Nous avons de super partenaires au Royaume-Uni, dit-il, en Allemagne, en Italie et bien sûr en France. Applaudissements un peu faiblards, alors il relance.
So we have to show some enthusiasm for AI.
Et demande un peu plus d'enthousiasme. Avant d'évoquer le principal acteur français.
A young company.
Une jeune compagnie, un patron que j'aime beaucoup, Mistral AI, fleuron tricolore dirigé par Arthur Mensch. Ils se retrouveront cet après-midi pour sceller un partenariat, une infrastructure souveraine inédite en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron.
Et nous reparlons d'intelligence artificielle, mais dans la grande distribution. Ce sera dans une dizaine de minutes. Merci Xavier Demagny avec les moyens techniques de Virginie Lorda. L'IA et ses centres de données sont, on le sait, de gros consommateurs d'énergie et les émissions de CO2 du secteur ne cessent d'augmenter. Et bien, ces émissions et d'autres ont des conséquences sur le climat. Le Groenland vient de vivre son printemps le plus chaud et un rapport publié ce matin attribue cet événement au réchauffement climatique causé par l'homme avec des conséquences très concrètes, Rémi Brancato.
Oui, la vague de chaleur aura duré 9 jours, du jamais vu aussitôt dans la saison. Record battu en Islande, 26,6 degrés. Et au Groenland, 14,3 le 19 mai. Normalement, à cette période, le thermomètre affiche en moyenne 0,8 degrés. Ce matin, les 18 chercheurs du réseau World Weather Attribution assurent dans leur étude que cette vague de chaleur aurait été impossible sans le réchauffement climatique causé par l'homme. La banquise a fondu 17 fois plus vite que la moyenne et c'est tout l'écosystème qui est perturbé au Groenland. Les chercheurs prennent pour exemple une précédente vague de chaleur en 2022. La fonte des sols gelés avait provoqué des inondations, des dégâts sur les routes. La ressource en poissons se tarit, le flétan, les crevettes se déplacent en cas de chaleur vers des eaux plus froides au nord. Et l'eau potable est aussi menacée puisque la fonte de la glace provoque une infiltration de métaux dans les lacs. Les scientifiques alertent, plus le réchauffement climatique s'accentuera, plus fréquemment ces vagues de chaleur précoces se répéteront.
Il y a une semaine, dans ce 13-14, nous rendions hommage à la chanteuse Nicole Croisille, disparue à l'âge de 88 ans. Nous nous souvenions de ses chansons, de ses dabadabada pour Claude Lelouch, bande-son du film Un homme et une femme. Eh bien, Nicole Croisille s'adresse à nouveau à nous. Aujourd'hui, c'est le magazine Elle qui publie une dernière interview d'elle. Bonjour Adrien Serrière.
Bonjour.
Interview dans laquelle la chanteuse révèle avoir choisi l'euthanasie en Belgique pour en finir, même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu.
Oui, elle voulait partir dans la dignité et apporter son témoignage au moment où, hasard du calendrier, la loi en faveur du droit à l'aide à mourir était discutée à l'Assemblée. Nicole Croisille donne donc rendez-vous à la journaliste Marion Ruggieri dans un salon de thé parisien. Elle commande un chocolat chaud et un flan. Maintenant, je m'en fiche, dit celle qui a prévu de mettre fin à ses jours trois semaines plus tard. Marion Ruggieri décrit un visage rayonnant, mais un corps démesurément enflé par endroits à cause de la double tumeur au foie que les traitements n'ont pas pu vaincre. Traitements qui ont rendu insupportables les dernières années de Nicole Croisille. La chimiothérapie l'a détruite. Elle regrette qu'on n'ait rien d'autre à lui proposer que de crever à petit feu. Nicole Croisille explique à elle le parcours très encadré auprès du CHR de Namur, en Belgique. L'écoute, la simplicité. Son projet d'euthanasie n'aura finalement pas eu lieu. Son état s'est dégradé. Elle est décédée dans une clinique parisienne le 4 juin. Un dernier hasard, c'est la date que Nicole Croisille avait choisie pour son grand départ, comme elle l'avait écrit dans son agenda.
Et c'est à lire dans le magazine Elle, ce qui nous amène au cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Le cinéma, les films à l'affiche en ce mercredi. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Vous nous conseillez, on va commencer par celui-là, Indomptable, réalisé par l'humoriste Thomas Gijol.
Oui, l'ancienne tête d'affiche du Jamel Comedy Club passe pour la quatrième fois derrière la caméra pour mettre en scène, cette fois-ci, un polar prenant pour décor les rues de la capitale camerounaise, Yaoundé.
Tu es camerounais, non ? Non, tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé.
Voilà, Thomas Gijol qui interprète le rôle principal de son film, celui du commissaire Bilong, un policier chargé d'enquêter sur le meurtre d'un de ses collègues. Un scénario tiré d'une histoire vraie et plus précisément du documentaire Un crime à Abidjan qui retrace ce fait divers de 1995. Dans Indomptable, il faut certes un léger temps d'adaptation avant d'accepter Thomas Gijol dans un rôle dramatique, mais le jeu en vaut la chandelle tant cette immersion dans les faubourgs de Yaoundé est saisissante et au-delà de l'enquête policière. Le film s'intéresse aussi beaucoup à l'éducation à la dure que le commissaire Bilong prodigue à ses enfants, donnant lieu à des scènes tragicomiques particulièrement réussies et dans lesquelles Thomas Gijol a mis beaucoup de sa propre histoire familiale.
Direction la Corée du Sud maintenant pour A Normal Family qui parle lui aussi d'éducation d'ailleurs.
Doit-on dénoncer son enfant lorsqu'on le sait coupable d'un crime ? C'est la question évidemment épineuse que pose le réalisateur Gino Ur. Nous sommes à Séoul, deux frères, l'un chirurgien, l'autre avocat, vont devoir prendre une décision qui bouleversera à jamais la vie de leur famille. Dans la grande tradition du cinéma coréen, les curseurs des émotions sont poussés à fond et ce manque de nuances peut parfois déconcerter, mais la finesse de l'écriture et l'efficacité de la mise en scène permettent à ce film d'être bien plus subtil qu'il nous le laisse croire d'abord, transformant le drame intime en thriller haletant.
A Normal Family, c'est mieux avec l'accent. Vous nous recommandez aussi, Alexis, un documentaire intitulé Les mots qu'elles eurent un jour.
Oui, c'est à une véritable enquête que se livre le réalisateur Raphaël Pilosio en visionnant les images muettes de militantes algériennes filmées à leur sortie de prison en 1962. Il décide de partir à leur recherche pour comprendre qui étaient ces femmes et ce qu'elles sont devenues.
Des films préparés par Yann Lemasson. Quand vous êtes sorti de prison, là, c'est pas de la vieille histoire. Non, c'est important.
En s'intéressant aux blessures pas encore cicatrisées de la guerre d'Algérie, ce documentaire zoome sur les femmes, et en l'occurrence ici sur de très jeunes femmes membres du FLN. Le propos est aussi glaçant que passionnant, et la réalisation très audacieuse est à la hauteur du sujet abordé.
Quoi d'autre en salle cette semaine, Alexis ?
Alors nous avons Dragon, un film d'animation remake en prise de vue réelle du dessin animé produit par DreamWorks et sorti en 2010. Life of Chuck, un drame adapté d'un roman récent de Stephen King, et Vacances forcées, une comédie française avec Clovis Cornillac et Horatica.
Merci Alexis de Meyer. À mercredi prochain, un démarrage record pour la dernière console de Nintendo, la Switch 2. 3,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde en seulement 4 jours, du jamais vu pour la marque, malgré son prix, 469 € en Europe. Là, c'est presque gratuit, il ne vous en coûtera que quelques pièces. Nous sommes sur la Grand Place de Lille. En ce moment, vous pouvez y trouver Laurent. Laurent est sans abri et il défie les passants aux échecs. Il est redoutable. Camille Marigot l'a rencontré.
Ne l'appelez pas Laurent, mais Laurent le conquérant.
À l'âge de 11 ans, je commençais déjà à jouer sur 27 parties à l'aveugle.
Ancien militaire, le Belge a tout laissé tomber il y a 20 ans pour, dit-il, reprendre sa liberté pour se consacrer au jeu de sa vie.
Mon premier jeu d'échecs que j'ai acheté comme ça, c'est je suis passé devant un magasin, j'ai vu un jeu d'échecs à 32 balles. Et j'avais 35 balles sur moi, donc il me restait 3 balles, donc ça va, j'avais de quoi manger ou boire encore avec. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Tu veux jouer ?
Ouais.
Faut juste savoir que je m'appelle Laurent, je suis SDF et je demande 2 € la partie. Si tu veux.
2 ans et demi qu'il sillonne la France, Marseille, Toulouse, Lyon. Il a posé ses sacs à Lille il y a un an.
On peut faire une partie chacun ?
Louise et François, venus d'Orchy, prennent un échiquier chacun.
Qu'est-ce que je vais faire ? Je fais un truc un peu intelligent là. Ah là là.
Échec, c'est pas encore maths, mais c'est bientôt. Je sais systématiquement ce que je dois jouer parce que ça correspond à une chorégraphie visuelle.
Ah, il est très fort Laurent. Il m'a tenu du début à la fin, je m'en suis pas rendu compte. Et quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard.
Laurent, le conquérant, reprendra la route le 15 juillet, juste après la fête nationale, avec un rêve, créer le premier tournoi international d'échecs de rue pour amateurs.
Je te la paye gratuite celle-là. Non,
vas-y. Et généreux en plus. Laurent, le conquérant, c'est aussi un compte Instagram géré par ses amis. Vous pouvez y suivre ses aventures. Vous pouvez le suivre aussi grâce aux réseaux sociaux d'Issinor, qui réalisait ce reportage à Lille, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, un secteur qui va être bouleversé par l'intelligence artificielle. C'est la grande distribution. Vous allez voir que ça concerne tous les aspects, les prix, les caisses, les rayons. 01 45 24 7000 pour vos questions, vos témoignages, si vous travaillez dans ce secteur. 13h45, notre feuilleton, nous sommes à Aurillac et nous nous intéressons à la ligne aérienne vers Paris. C'est l'une des plus petites de France. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité avec les pompiers de ce petit aéroport. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme. Cher Jérôme.
Éric, où est-on chez soi ? C'est la question que vous posez aujourd'hui.
Oui Jérôme, si ces mots renvoient d'abord à un sentiment géographique, on peut aussi se sentir chez soi, loin de ses racines, dans un bien-être que peuvent procurer d'autres lieux que ceux de nos origines.
Et avec vous Frédéric, une chanteuse.
La chanteuse d'origine portugaise, Bevinda, qui sera en concert la semaine prochaine au studio de l'Ermitage à Paris. Et avec elle, c'est la voix de Maxime Le Forestier que nous écouterons, sa chanson « Mon frère », la première que Bevinda a apprise par cœur. Elle a une grande histoire avec cette chanson.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Le maître du polar revient avec un nouveau héros. Découvrez « Sous les eaux d'Avalon » de Michael Connelly. Sur l'île de Santa Catalina, l'inspecteur Stilwell pensait couler des jours tranquilles. Mais un cadavre retrouvé dans le port va tout faire basculer. Nouveau personnage, nouvelle enquête, Sous les eaux d'Avalon, de Michael Connelly, aux éditions Kalman-Lévy.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Inter, partenaire de l'exposition Le Mystère Cléopâtre à l'Institut du Monde Arabe. Depuis sa mort tragique, il y a plus de 2000 ans, Cléopâtre ne cesse d'éblouir le monde. Un personnage fascinant dont se sont nourris littérature, peinture, sculpture, théâtre, cinéma, un mythe. 250 œuvres d'art exceptionnelles, issues de grandes collections internationales, plongent le visiteur au cœur de l'une des plus étranges énigmes de l'histoire, de l'Égypte antique à nos jours. Le Mystère Cléopâtre jusqu'au 11 janvier à l'Institut du Monde Arabe.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
De fortes chaleurs aujourd'hui.
Oui, chaleur inhabituelle aussitôt dans la saison. La barre des 30 degrés sera dépassée du golfe du Morbihan aux Pyrénées jusqu'au centre-val de Loire et au quart sud-est. On attend par exemple 31 degrés à Marseille et à Lyon ou encore 33 degrés à Nantes et Aurillac. C'est sur la Nouvelle-Aquitaine, le Midi Toulousain et entre l'arrière-pays varois, la moyenne vallée du Rhône et l'intérieur de l'Hérault que les températures seront les plus intenses, avec des maximales comprises entre 34 et 36, voire 37 ou 38 degrés cet après-midi, avec 35 degrés à Bordeaux, 36 à Nîmes ou encore 37 à Montauban. Ambiance plus respirable du Finistère au Bassin parisien et au Hauts-de-France et du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté avec 24 à 30 degrés. Prévoyez par exemple 28 degrés à Caen, Paris et Besançon. Et puis évidemment avec ces températures élevées et ces fortes chaleurs, c'est surtout le soleil qui vous attend cet après-midi.
Vous nous annoncez 35 degrés à Toulouse, ça s'est déjà vu en 11 juin.
Certaines villes pourraient connaître effectivement leur premier 35 degrés de l'année, peut-être même les 35 degrés les plus précoces jamais enregistrés à Toulouse, mais aussi du côté de La Rochelle. Demain, la chaleur va s'accentuer sur un large quart nord-est, alors que les températures deviendront un peu plus raisonnables sur l'ouest. Et puis attention quand même aujourd'hui aux orages sur la façade ouest. Le ciel va devenir de plus en plus chaotique au fil de l'après-midi. C'est surtout ce soir et cette nuit qu'on attend des orages parfois forts entre le sud Finistère et le sud de la Garonne, avec des ondées qui pourraient déjà se propager cet après-midi, mais surtout une instabilité beaucoup plus forte en fin de journée et en soirée, avec des orages forts possibles accompagnés de puissantes rafales de vent, voire de la grêle. Prudence toute particulière dans les plaines du sud-ouest.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Claire Groulier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14 pour parler de l'intelligence artificielle et de la grande distribution à l'occasion du salon VivaTech, salon consacré à l'innovation technologique qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. L'IA qui est partout dans notre vie quotidienne et donc notamment dans les grandes surfaces. Vous connaissez ce sujet car vous êtes senior partner, c'est comme ça qu'on dit chez Kea. Kea, c'est un cabinet de conseil en stratégie. Vous êtes en charge du pôle digital, data et technologie. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages, que vous soyez client de grande surface ou que vous y travaillez. C'est votre cas, Michael Alagapin. Bonjour.
Bonjour.
Nous vous avons sollicité parce que vous dirigez, vous êtes propriétaire d'un Super U, c'est à Bonne, en Haute-Savoie. Et vous êtes aussi responsable national de la filière fruits et légumes pour la coopérative U, alors à l'échelle de toute la France. Et vous utilisez, par exemple, dans votre magasin, dans votre rayon fruits et légumes, l'intelligence artificielle. Et si oui, pour faire quoi ?
Exactement, pour gérer nos commandes au quotidien avec nos collaborateurs.
C'est-à-dire ?
Voilà. Eh bien, en fait, on a un partenariat avec une start-up française basée à Paris qui est une passerelle entre notre outil coopératif U de commande et cet outil intelligence artificielle. C'est un vrai outil pour aider nos collaborateurs à chaque matin passer leur commande pour ajuster leur commande pour une délivraison le surlendemain. L'intérêt de ça et d'aider nos collaborateurs, c'est d'avoir une gestion des commande la plus fine possible pour que derrière, en termes de qualité dans nos rayons, de fraîcheur dans nos rayons, on s'y retrouve et que l'on soit encore plus exigeant avec ce point-là et qui plus est de gérer notre gaspillage alimentaire.
Je prends un exemple, combien je dois commander de kilos d'orange ou de banane, comme vous voulez, pour dans 2-3 jours
Effectivement.
Sollicitez cet outil et donc l'intelligence artificielle va vous répondre. Mais sur la base de quoi ? Comment est-ce qu'elle vous donne ces infos ? Quels éléments elle prend en compte ?
le chiffre d'affaires historique, la météo et effectivement les ventes à venir. On peut renseigner toute une base de données dans notre tablette d'intelligence artificielle. Effectivement, on a des habitudes de commande naturelles avec nos collaborateurs et effectivement l'intelligence artificielle vient régler un petit peu ces choses-là. Une habitude de commande mettrait 10 cartons de bananes pour ce week-end. Effectivement, l'intelligence artificielle va nous dire, au vu de ce que vous prévoyez, ce que vous aviez fait les semaines d'avant et la météo et les semaines à venir, ça serait plutôt 8. Et là, on gère bien notre démarque, mais également notre fraîcheur dans le rayon fruits et légumes.
Mais par exemple, magasins. Là, il fait très chaud en ce moment, et Sébastien Léas vient de nous le détailler. Quels sont les fruits qu'on va consommer davantage? Les informations qui vont rentrer dans l'IA et qui vont ressortir en disant bah, peut-être c'est sur tel fruit qu'il faut aller.
Justement, je suis en plein sur le salon coopérative U du sud de la France où on vient de signer un partenariat avec les vergers éco-responsables, un partenariat de commercialisation. On met en avant ce label éco-responsable avec la coopérative U. Eh ben, ça va permettre de donner cette information-là à nos collaborateurs en magasin. Et du coup, l'intelligence artificielle avec cette météo, ces fruits à noyaux qui vont devenir les stars là très prochainement dans les magasins. Eh ben, ça va.
Quel fruit on consomme le plus quand il fait plus chaud? Par exemple,
ben, en ce moment, la pêche nectarine, abricot, on y va, on rentre également dans
donc
la saison.
Donc il faut en commander davantage, cerise. C'est ça
exactement.
Le...
Exactement.
Ouais. Mais vous le savez, vous êtes un pro, donc est-ce que vous avez besoin de l'IA pour vous aider à faire ça?
Oui, mais il faut savoir aussi qu'on a des équipes qui régulièrement se renouvellent. On a des magasins de plus petite taille. On peut avoir des collaborateurs en congé, des collaborateurs absents. Cet outil vient également aider les collaborateurs. Moi, je le dis ouvertement, l'IA est vraiment un outil qui vient aider nos collaborateurs. Je parle d'un rayon fruits et légumes parce que c'est mon domaine. Il y a plein d'autres endroits dans un magasin où on peut aider nos collaborateurs grâce à l'IA.
Je vous garde, Michael Alagapin, en ligne encore quelques minutes, si vous le voulez bien. Claire Gourlier, l'intelligence artificielle, elle se déploie petit à petit en ce moment dans le secteur de la grande distribution. On est vraiment en plein dedans ou alors c'est devant nous ou c'est derrière nous?
Alors non, c'est pas derrière nous, c'est plutôt devant nous, mais ça se déploie quand même à grande vitesse, je dirais. Alors c'est vrai qu'il y a... Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont complètement passées à l'échelle, comme on dit, c'est-à-dire déployées dans l'ensemble des magasins, complètement généralisées.
Il n'y a pas de l'IA dans tous les magasins?
Alors, il n'y a pas forcément de l'IA dans tous les magasins, mais il y a énormément de pilotes qui ont été lancés. Hein. C'est vrai que la prédiction de la demande, par exemple, dont on vient d'entendre parler, c'est un des cas d'usage.
La gestion des stocks, ça
c'est... plus répandu, voilà, la gestion des stocks et la gestion de la prévision. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Il y a aussi tout ce qui est... le pricing dynamique qui se généralise
dynamique.
De plus en plus.
Qu'est-ce donc, que ça veut dire c'est les prix.
C'est les prix, exactement.
Quel prix je mets pour mon paquet de gâteaux, par exemple?
Exactement. Alors, avec l'idée qu'on a maintenant des étiquettes électroniques, notamment au point de vente, donc là aussi, peut-être que si il y a des écoulements qui sont moins forts que ce qu'on avait prévu sur un certain nombre de paquets de gâteaux, pour reprendre l'exemple, on peut adapter son prix pour favoriser, par exemple, un écoulement.
L'IA constate qu'on a des stocks très grand, il y a ce produit qui part pas et automatiquement le prix baisse.
Absolument, on peut avoir ce genre de mécanique aussi sur le prix qui commence à être adopté.
Est-ce qu'à l'inverse, je sais pas moi, dans la matinée, il y a énormément de clients qui viennent acheter ce produit-là? Automatiquement, le prix est augmenté.
Alors, c'est un principe qu'on connaît bien, notamment dans le e-commerce. Hein.
Oui.
Des géants du e-commerce, pour ne pas les citer, effectivement, fonctionnent comme ça. Vous l'avez tous observé, avec des prix à la hausse ou à la baisse, en fonction d'un certain nombre de paramètres.
Ça se fait déjà,
la demande. Et ça commence à être des choses qui arrivent en magasin, notamment par le biais soit de promotion, soit d'adaptation de prix, qui peuvent être faites beaucoup plus rapidement grâce à l'IA. Et grâce, évidemment, toujours quand on est sur un point de vente physique, au support qui est l'étiquette électronique qui permet, évidemment, s'il fallait changer toutes les étiquettes dans tous les rayons, ce serait plus difficile. Mais avec ces dispositifs-là, eh bien, on est capable de le faire, y compris dans les points de vente physiques.
Michael Alagapin, est-ce que vous faites ça? Est-ce que l'IA peut vous aider à fixer les prix dans votre magasin?
Oui, on a surtout des outils informatiques, de là à dire que l'IA permet de gérer nos prix, pas à 100%, mais par contre, oui, on a des étiquettes électroniques de plus en plus dans les points de vente, et on a des outils informatiques, donc l'informatique, l'IA est très liée à effectivement notre politique tarifaire.
Est-ce que ça peut aussi servir, est-ce que vous l'utilisez aux caisses automatiques notamment, pour surveiller qu'il n'y a pas d'anomalie? Anomalie, ça veut dire aussi que parfois il y a des clients qui partent avec des produits sans les avoir payés. Est-ce que vous vous servez de l'IA aussi pour ça?
Oui, encore une fois, c'est un outil d'accompagnement pour toute la partie agent de sécurité, pour effectivement des fois détecter dans des dessous de caddie un oubli de pack d'eau, des choses comme ça. En tous les cas, moi personnellement, je ne l'ai pas, mais on sait que ça existe.
D'accord. Vous l'utilisez pas vous dans votre magasin?
Non, pas encore, ouais. Parce que comme vous le disiez, c'est une démarche l'IA qui va très très vite. En tous les cas, nous, chez Coopérative U, on y va lentement mais sûrement. On veut un déploiement de qualité pour accompagner nos collaborateurs. Donc, sur la partie fruits et légumes, j'y reviens, ça a été 20 magasins en test en 2024.
D'accord.
Et depuis le mois d'avril, on a 100 magasins par mois en moyenne qui se déploient sur 1700 magasins chez Coopérative U. Ça reste un déploiement lent, mais parce que nous voulons vraiment accompagner le réseau dans cette démarche.
Michael Alagapin, il fait référence, Claire Gourlier, surveiller par exemple que pas des packs d'eau qui soient cachés, ça peut arriver sous les caddies. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les images de vidéosurveillance sont analysées par l'IA, ça marche comme ça?
Oui, alors c'est vrai qu'une des applications de l'IA, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur, enfin tout ce qui est effectivement la capacité d'analyser les images. Alors, enfin, il y a effectivement tout ce qui est détection de fraude, mais il y a aussi tout simplement ce que vous connaissez quand vous mettez des articles à une caisse automatique où vous ne les scannez pas, mais ils sont reconnus par la vidéo, donc ils sont capables de reconnaître un panier et de faire l'addition sans que vous ayez à le scanner, par exemple sur les tests automatiques. Donc en effet,
pour la fraude, ça marche vraiment comme ça? C'est l'IA qui analyse les images en fait?
Alors l'IA analyse les images dans un cadre réglementaire qui est quand même relativement strict, et l'IA peut aussi par la vision par ordinateur toujours regarder les parcours clients, et là c'est des choses qui sont moins développées mais qu'on voit poindre notamment dans d'autres pays, mais on a des points chauds, là où les gens s'arrêtent, on analyse aussi les parcours des consommateurs à l'intérieur du magasin.
Moi, en fait, quand je suis dans le magasin.
On sait tout de vous quand vous êtes dans le magasin. Alors, c'est vrai qu'on sait tout de vous aussi quand vous faites des courses ou que vous naviguez sur Internet. C'est parfois moins, peut-être moins anxiogène. Je pense qu'effectivement, ce sujet de la reconnaissance, notamment de son visage et de la vidéo, c'est une barrière, en tout cas dans l'acceptation. Qui est probablement un frein aussi à l'adoption de ces technologies.
Sujet extrêmement sensible, hein. Michael Alagapin nous a dit à l'instant, mais nous on y va vraiment prudemment et doucement chez Coopérative U. Benoît nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
J'avais une question à poser, je travaille dans l'automobile, à savoir en gestionnaire des stocks, est-ce qu'à l'avenir, l'IA peut remplacer notre métier?
Est-ce que vous l'utilisez dans votre métier ou pas, dans votre activité, Benoît?
Non, pas encore.
Non, pas pour l'instant. Merci Benoît pour votre question. Claire Gourlier, est-ce qu'il y a une crainte de diminution des effectifs de salariés dans ce secteur d'activité?
Alors une crainte indéniablement, hein, nous on l'observe évidemment dans tous les secteurs. C'est vrai que l'intelligence artificielle, ça va bouleverser le marché du travail, mais on estime plutôt qu'elle va plutôt transformer les métiers. Alors remplacer, honnêtement, les chiffres sont complètement variables et on n'imagine pas un remplacement des emplois.
Vous savez dire s'il y aura 5% de salariés en moins?
Honnêtement, non. Et ça, enfin, vous regardez toutes les études, on a des écarts qui vous disent ça va toucher, ça va potentiellement remplacer 20% des emplois, d'autres qui vous disent c'est 80%. Enfin, on a un peu tout et son contraire, et l'IA n'a pas permis là d'avoir un consensus ou de modéliser ce sujet. Donc, je pense que la question de à quelle hauteur ces emplois vont être remplacés, on n'a pas du tout de consensus là-dessus. Et le vrai sujet, c'est plutôt cette transformation des compétences, des métiers, du rôle de chacun. Enfin, je pense que dans un supermarché, typiquement, ou là, dans le cas de l'automobile, la question, c'est quelles compétences nouvelles il va falloir mettre en œuvre à côté de cette IA.
Pour gérer ces outils, en fait.
Pour gérer cet outil, ouais. Et pour le contrôler, parce que l'IA va être contrôlée par des IA, mais à un moment moment, il y a quelqu'un qui est responsable et il y a quelqu'un qui va devoir débrancher s'il y a hallucine, comme on dit. Donc voilà, il va y avoir tout un tas aussi de nouvelles compétences à développer.
Michael Alagapin, la question que Benoît pose, est-ce que je dois craindre pour mon métier ? Peut-être non. Certains de vos collaborateurs vous la posent aussi ?
Non, pas du tout. Et c'est ce que je vous ai dit déjà au début de l'interview. C'est vraiment un outil qui accompagne nos équipes. Il n'y a pas d'autre analyse à faire. On le voit, ça fait déjà plusieurs années que l'IA rentre sur certains secteurs d'activité. Mais en tous les cas, et même l'automobile, j'en suis convaincu, l'IA apporte une véritable aide dans le quotidien.
Il faut former les salariés à l'utiliser.
Oui, mais on se rend compte que nos salariés sont de plus en plus à l'aise avec l'outil informatique sur les smartphones, sur les tablettes, sur l'ordinateur. Donc clairement, il y a toujours une réticence pour changer des méthodes. Mais l'IA aujourd'hui, en tous les cas, chez Coopérative U, dans ce premier secteur d'activité, le fruits et légumes, c'est vraiment un outil qui aide nos collaborateurs.
Claire Gourlien, un dernier mot. Et le consommateur, peut-il être réticent ? On a craint notamment au moment du déploiement des caisses automatiques qu'il n'y ait plus que des caisses automatiques à l'avenir. Or, on se rend compte qu'on en reste toujours à une petite partie des caisses, mais pas à toutes les caisses.
Absolument. Moi, je suis convaincue que de toute façon, la distribution, ça restera avant tout un contact humain, enfin en tout cas dans les points de vente physiques.
Donc, vous ne croyez pas au magasin 100% IA, 100 personnes ?
Je ne crois pas au magasin 100% IA. Alors, on a des exemples. Enfin, Amazon a testé ce magasin 100% IA sans aucun humain. Bah, parce que je pense
il y a des épiceries dans plein de communes de France, voilà, dans laquelle il n'y a pas de personne.
Dans laquelle il n'y a personne, tout à fait. Donc ça répond probablement à un besoin précis pour un type de consommateur précis, à un moment précis. Je suis en voyage, il y a certains horaires pour lesquels peut-être ça fait sens d'avoir ces dispositifs. Ouais. Mais je ne crois absolument pas à ce que l'ensemble de la population soit prête à aller faire ses courses dans des magasins sans caisse, même si la technologie est là et le permet. Et d'ailleurs, on voit que même aux États-Unis, où on pourrait se dire, les consommateurs sont beaucoup plus friands. On peut dire qu'Amazon Go, pour ne pas les citer, c'est un magasin qui fonctionne absolument bien d'un point de vue technologique. Est-ce que c'est un énorme succès qui a balayé tout le reste d'un point de vue commercial et est-ce que Walmart n'existe plus ? Eh bien non. Donc je pense qu'on aura toujours cet humain augmenté dans la distribution et toujours des gens sur le terrain en contact avec les clients.
Merci à tous les deux. Claire Gourlier du cabinet de conseil en stratégie Kea. Merci également à Michael Alagapin, PDG du Super U de Beaune, en Haute-Savoie. On dit Bonne ou Beaune ? On dit Bonne, hein, c'est
bonne,
ça ? Oui, Bonne. C'est bien ça. On va terminer sur une bonne prononciation. Responsable national de la filière fruits et légumes chez Coopérative U, 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, nous sommes toute cette semaine à l'aéroport d'Aurillac, l'un des plus petits de France. Deux fois par jour, il accueille les rotations avec Paris-Orly, liaison largement déficitaire, mais financée par l'État et les collectivités locales qui la jugent indispensable à la vie économique locale. Alors une vingtaine de salariés travaillent sur place, dont les pompiers qui font à peu près tout, et c'est Marc qui nous accueille.
On s'occupe de l'avion, donc on charge les bagages à bord, on charge l'eau chaude parce qu'il distribue du café quand même le matin. Ensuite, on fait les contrôles de carburant, donc on doit contrôler la qualité du produit. On s'occupe de toute la partie aussi balisage, on fait aussi la partie déneigement de l'aéroport, voie de circulation et piste et tout ça. On fait aussi le dégivrage de l'avion, les bords de clôture, toute la partie mécanique. On fait entretien des véhicules, si on peut dire. Quelque chose qui est cassé, voilà, bah on est là pour réparer. Une ampoule a changé à l'escale, on est là. Je m'appelle Marc Vigneron, j'ai 25 ans de boîte. Hein, c'est 25 ans que je travaille sur l'aéroport d'Aurillac. Je suis toujours pompier d'aéroport polyvalent. On m'a tout faire, quoi, voilà. Voilà, je tire un premier saut pour enlever le produit qui est dans la tuyauterie.
Et ça, c'est ?
Ça, c'est du diethanol, donc c'est le kérosène. Donc c'est le diesel aéronautique, si on peut dire. Maintenant, je vais contrôler le produit avec une pastille pour voir si le détecteur détecte de l'eau dans la partie carburant, quoi. Parce que ça peut être dû à de l'humidité dans la cuve. Ouais, différence de température, chaud-froid, donc ça peut créer de la condensation. Donc c'est pour ça qu'on contrôle le produit tous les jours. Parce que voilà, de l'eau dans un avion, c'est pas génial, quoi. Donc là, vous voyez, la pastille est pas bonne, la fonce, elle est bleue, vous voyez. Ça veut dire qu'il peut y avoir potentiellement de l'eau dans le seau que je viens de tirer. Vous voyez, j'ai fait un troisième test et là, le produit est bon. Donc, c'est bon pour moi. Alors, il y a bien faux, vic, le PPA, au cours d'attente, je souhaiterais procéder chez Conseil 33 pour un périnamalie.
Un rappel dégagé.
Vous communiquez vraiment à chaque fois, chaque mouvement et tout, quoi.
Ah, c'est obligatoire. Sur un aéroport, il y a les avions en mouvement, donc par sécurité, on est obligé. C'est eux là-haut qui ont la vision sur le domaine de l'aéroport. Donc, ils nous donnent l'autorisation de procéder sans risque, on va dire. Ce véhicule-là, c'est un véhicule Isuzu, donc c'est un véhicule de périnamalier qu'on appelle. On contrôle l'état des clôtures tout autour de l'aéroport pour pas qu'il y ait de gibier ou de chien ou n'importe qui soit sur le domaine de l'aéroport, ça peut être dangereux. On est dans un milieu rural ici, donc il y a tout, c'est vraiment la campagne. On est bien en campagne, il faut le dire. Il y a beaucoup de bois autour et tout ça, donc il faut surveiller comme il faut.
L'environnement rural, là on le voit bien.
Les salaires. La vache emblématique du Cantal qui est là, vous voyez, c'est le voisinage direct. Ouais.
Isuzu, tu pourras dire à quoi et paysage qui se dégage de l'axe.
Là, il faut connaître, dire aux gens de sortir l'axe, parce qu'ils ont le véhicule qui est pile dans l'axe de l'avion. Et ça peut déclencher l'anticol de l'avion. Ça peut provoquer un doute pour le commandant pour le poser. Voilà. Messieurs! Il faut en sortir de l'axe de piste, s'il te plaît.
Oui, on va aller là-bas.
Ça marche, merci. Parce que l'avion arrive là dans un petit quart d'heure.
À l'heure, comme nous, Adrien Serrière pour ce feuilleton. La suite vendredi.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. À 13h49, le mercredi, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, vous vous posez cette semaine cette question a priori simple. Que signifie être chez soi ?
Oui, Jérôme, cette expression très courte en dit long sur nous. Être chez soi, se sentir chez soi, se sentir comme chez soi. Ces mots renvoient à notre façon d'habiter nos vies, d'habiter des lieux, en particulier ceux de nos origines. Le fameux « né quelque part », cher à Maxime Le Forestier, est forcément familier de notre ami Frédéric Pommier. Mais si on ne choisit pas où l'on est, pas plus les trottoirs de Belleville que ceux de Manille, on peut se sentir chez soi dans un ailleurs lointain. Ainsi nous le dit cette semaine dans le 1 Hebdo, chacune à sa façon, les philosophes Barbara Cassin et Claire Marin. Dans son livre sur la nostalgie, sous-titré par cette question « Quand donc est-on chez soi ?», la première dit combien elle se sent chez elle en Corse, sans qu'elle ait aucun lien d'origine familiale avec l'île de Beauté. C'est le lien qu'elle crée elle-même qui lui permet d'éprouver cette sensation qui aurait pu naître par exemple en Grèce, chez cette grande helléniste. Eh bien non, c'est Claire Marin qui à la question « Où vous sentez-vous chez vous ?» répond « Je dois avouer que je me sens chez moi en Grèce, alors même que je ne parle pas la langue, que je n'ai aucune attache familiale avec cet endroit. » Pourtant, chaque fois que je réfléchis à la façon dont mon cœur bat pour un endroit, j'ai en tête cette espèce d'évidence.
Est-ce que cette question « Où suis-je chez moi ?» a une dimension politique ?
Oui, Jérôme, mais j'allais répondre hélas oui, dans notre pays où quelqu'un d'ici peut regarder quelqu'un d'ailleurs, comprenez du village d'à côté, comme un étranger ou un estranger, dit-on, avec l'accent du Sud. La sémantique n'est pas exempte de cette distinction. Une équipe de foot joue à domicile et ce « chez elle » est censé la protéger davantage que si elle jouait à l'extérieur. Ceux qui ont déjà assisté à des meetings de Marine Le Pen le savent. Les supporters de la présidente du RN entonnent en chœur leur slogan « On est chez nous » pour dire que bien sûr les étrangers, les Africains, les Arabes, les musulmans pour l'essentiel et tous ceux qui ne sont pas des Français de souche ne sont pas chez eux en France. Le « On est chez nous » est un slogan xénophobe pour enfoncer dans les têtes la théorie du grand remplacement et ses fantasmes d'une France qui n'appartiendrait plus à la race blanche. L'adage populaire « On n'est plus chez nous » renvoie à une vision identitaire négative à un refus de l'autre.
Il y a aussi beaucoup de Français qui sont en exil intérieur, qui ont quitté leur ville, la province, pour monter à Paris, comme on dit. Où se sentent-ils chez eux désormais ?
C'est une question intéressante car elle semble limiter la sensation du chez-soi à un sentiment géographique. Or, s'être un jour arraché d'un lieu aimé ne signifie pas qu'on ne trouvera plus de chez-soi. Il peut être une autre maison, une autre région, mais comme l'explique encore Claire Marin, on touche à la dimension symbolique. On peut se sentir chez soi dans la lecture, sculpture, l'écriture, la peinture ou la danse, ou dans un groupe d'amis, un groupe politique, une communauté religieuse. Enfin, être assigné à rester chez soi peut être un étouffoir familier des femmes, longtemps recluses chez elles, notamment dans la cuisine. Mais le pire est de ne se sentir nulle part chez soi. Je garde, Jérôme, le souvenir d'un de mes amis maliens, Idrissa, quand j'étais étudiant, qui revint à Bamako, licencié en droit pour servir son pays. Sa première carte postale, je ne l'ai pas oubliée. Il m'avait écrit « Étranger à Roissy, étranger à Bamako ».
Et c'est à lire cette semaine dans le 1 Hebdo. Merci Eric Fotorino. De C'est la France à C'est une chanson. C'est la chanteuse Bevinda que l'on retrouve à votre micro, Frédéric Pommier.
Bevinda, chanteuse d'origine portugaise, qui sera en concert la semaine prochaine, le 18 juin. Ce sera au studio de l'Ermitage à Paris. Et c'est de mon frère qu'elle a souhaité parler, mon frère, de Maxime Le Forestier.
Cette chanson de Maxime Le Forestier, elle correspond vraiment à une époque de ma vie où je vis beaucoup dans ma chambre, comme beaucoup d'adolescents, et où je découvre enfin la musique, parce que d'un seul coup, je suis seule dans cette chambre. Avant, je la partageais avec ma sœur qui se marie très jeune. Enfin, je vous passe les détails.
Là, vous avez quel âge ?
Là, j'ai 14 ans. Et donc, je récupère les cassettes de mon frère aîné. Et entre autres, il y a cette cassette de Maxime Le Forestier. Et j'écoute cette chanson, « Toi, le frère que je n'ai jamais eu ». Et soudain, à l'intérieur de moi, ça résonne comme un exorcisme. Il met des mots sur quelque chose qui était enfoui, qui manquait et qui n'était pas dit.
Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Un an après moi, tu serais né. Alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur. J'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première.
C'est en 1972 qu'est sortie cette chanson, Frédéric, sur le premier album de Maxime Le Forestier.
Une chanson dans laquelle il s'adresse à un frère imaginaire qui lui manque. Et c'est à un douloureux secret de famille qu'elle reste liée pour Bevinda.
On vivait avec ma grand-mère et c'est ma grand-mère, un jour, peut-être j'avais 10 ans, qui me dit « Mais tu sais que toi, tu es jumelle, tu as eu un frère jumeau qui n'a pas vécu, qui est mort 15 jours après votre naissance ». Bon, sur le coup, j'y pense pas. Et cette chanson, d'un seul coup, fla, elle rebondit comme ça en moi. Et tous ces mots, même s'il lui parle pas d'un frère jumeau, tous ces mots me permettent de laisser jaillir enfin une expression. Et j'apprends cette chanson par cœur. Et je la chante. Et à partir de là, je sais pourquoi j'ai cette solitude. Pourquoi j'ai un manque. Pourquoi rien ne peut le combler, et rien ne pourra jamais le combler.
Ce frère jumeau que vous avez eu, vous savez pourquoi on ne vous en a jamais parlé avant ?
Non, je ne sais pas. Et c'est ma grand-mère qui me l'a dit, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est ma grand-mère.
Toi, frère que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bond, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux.
Est-ce que par la suite, vous avez imaginé parfois ce qu'aurait pu devenir votre frère jumeau, qui n'a pas survécu ?
Eh ben, oui, peut-être comme Maxime le dit. On aurait appris à faire des chansons ensemble. On aurait beaucoup voyagé tous les deux, parce que moi, je suis une grande voyageuse partout. On aurait peut-être eu aussi les mêmes amoureux, qui sait ? Comme dans la chanson de Maxime Le Forestier. On ne sait pas, on ne saura jamais. On peut tout imaginer, du coup. C'est chouette.
Il vous a fait avancer avec cette chanson, Maxime Le Forestier ?
Oui, beaucoup. Pas seulement par rapport à ce manque et à ces non-dits, mais aussi parce qu'ensuite, c'est la première fois que j'apprenais, comme je vous l'ai dit, une chanson par cœur. Et du coup, mon frère aîné jouait de la guitare à l'époque, et il écoutait beaucoup Brassens. Et là, j'ai commencé à apprendre des chansons de Georges Brassens. On allait les jouer au square, moi je chantais, lui il jouait de la guitare. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à la musique. Et c'est Maxime qui m'a permis de vivre ça.
Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille.
Les yeux un peu mouillés aujourd'hui. Mon frère, Maxime Le Forestier, c'était donc Frédéric, le choix de la chanteuse Bévinda.
Bévinda qui sera en concert le 18 juin au studio de l'Ermitage à Paris.
Merci Frédéric, je vous donne rendez-vous vendredi, car demain ce 13-14 sera en direct de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Nous parlerons de la baisse des naissances dans notre pays et de ses conséquences. Nous serons en direct d'une maternité. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Les araignées au menu.
Êtes-vous arachnophobe, Jérôme ?
Je ne crois pas.
Bon, alors donc vous n'avez pas peur des araignées. On se mettra dans leur tête à ces petites bestioles dans un instant.
A tout de suite dans la Terre au Carré.